Bonjour à ceux que j'ai pas salués. Alors on est encore en période estivale, hein, donc c'est pour ça que je me tiens devant vous ce matin, parce que je vais vous proposer un partage, c'est-à-dire que je vais vous faire travailler. Et je vais vous proposer un partage sur une deuxième parabole. On en a vu une cet été sur, c'était la parabole du Samaritain, ou du bon Samaritain. Et donc, j'avais envie de vous partager une autre parabole que j'ai animée en études bibliques, donc c'est la parabole dite des talents. Alors, attention, parce que, en fait, lisez attentivement, parce que je vais avoir besoin de vous, hein. Donc, vous allez être actifs pour le coup. Ah, je joue à broder, d'accord. Alors, je peux, ok. Donc, tu veux que je leur dise sur quoi ils vont être interrogés, c'est ça? Donc pendant que ça charge, je peux peut-être donner le contexte évangélique et historique de la parabole des talents. Comme ça, quand on la lira, vous pourrez faire attention et peut-être garder en mémoire les points sur lesquels on va s'attarder. Alors donc Jésus a beaucoup parlé en parabole. Donc au moment où il y a la parabole des talents, il faut s'imaginer qu'il y a eu déjà beaucoup d'enseignements qui se sont faits. Il y a une foule de gens qui le suivent et ceux qui sont à ses côtés probablement ont soif de connaître son enseignement et sa parole. Donc la parabole des talents, c'est ce qu'on appelle des paraboles d'avertissement. Donc autant Jésus a des fois utilisé des paraboles pour enseigner, la parabole des talents, c'est plutôt une parabole où il va nous avertir sur ce qui, soit sur ce qui va se passer ou soit par rapport à notre mission entre guillemets de disciple. Donc on est proche de l'arrestation de Jésus, il y a un empressement, il veut enseigner ses disciples sur le royaume présent et à venir. Donc il faut essayer de se projeter, c'est difficile, mais historiquement, se projeter, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc les gens, ils sont dans l'attente. Les Juifs attendent un nouveau royaume, ils attendent d'être libérés. Et donc ils pressent Jésus de questions sur ce royaume à venir. Est-ce qu'il est maintenant? Est-ce qu'il est plus tard? Ils sont pleins de questionnements par rapport à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est une lecture aussi vraiment historique. Comment essayer de se placer ce que eux comprenaient à l'époque? Et après, nous, on essaiera de voir ce que nous, on peut en retirer aujourd'hui. Donc, juste une parenthèse et après, on va lire la parabole. Donc, il me semble que je l'avais dit la dernière fois, je me répète sûrement. Mais le schéma des paraboles est assez classique. Jésus, il prend des personnages que les gens connaissent, des situations que les gens connaissent, et il va les utiliser pour parler de manière spirituelle aux personnes. Donc il offre un modèle où les gens se reconnaissent, des personnages, une situation fictive, très simple. Et le récit au départ est acceptable par tous et va emmener les gens à se questionner. La parabole, elle est là pour qu'on s'interroge et qu'on soit interpellé. Et la parabole, elle est là pour qu'on donne une réponse, qu'on le veuille ou non. C'est son objectif principal. Donc Jésus est un merveilleux rhéteur et enseignant. Et du coup, on va encore le voir à travers cette parabole. Donc on va voir en quoi il va provoquer le débat et nous interpeller. Du coup, je ne sais pas qui veut lire. Je vous ai dit que je vous ferai travailler. Hein. Florine, merci.
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Celui de même, celui qui avait reçu 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas gagné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, je prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas gagné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré de ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. »
Donc voilà, je pense que c'est la première fois qu'on entend cette parabole. Alors, donc juste aussi, je n'ai pas précisé, mais pour comprendre la société agricole du premier siècle, c'est une société rurale. Donc c'est assez fréquent, donc j'ai pu lire que c'est assez fréquent que les maîtres partaient pour un certain temps et laissaient leurs serviteurs gérer les propriétés. Donc ça, pour le juif qui entend ça au premier siècle, ça ne le perturbe pas outre mesure, hein. C'est les coutumes. Donc amasser les richesses, faire fructifier la terre, c'est l'usage aussi. Donc ça aussi, c'est pas surprenant pour eux. Donc les grands propriétaires, c'était aussi les décideurs des cités. Donc ils avaient des responsabilités. Et là aussi, on confie, donc les grands propriétaires avant qu'ils partent, confient tous leurs biens, leurs richesses aux ouvriers qui sont co-travailleurs, co-propriétaires du fait de l'absence du maître. Donc ça, c'était assez fréquent. Donc à la fois, on peut être aussi surpris par la parabole. C'était aussi l'usage, entre guillemets, que quand les ouvriers ne faisaient pas ce qu'ils avaient à faire, on les jetait en dehors de la propriété, et puis voilà, sans préavis, ils étaient mis à l'écart. Donc les ouvriers avaient l'habitude, de toute façon, de servir le maître, ils le faisaient avec joie, et c'était l'ordre des choses. Alors, donc le troisième serviteur, là, qui fait pas ce qu'il faut... On pourrait penser que c'est une dénonciation justement de la cruauté des maîtres de l'époque. Et en fait, on va essayer de creuser ensemble un peu plus et voir que c'est pas du tout ça dont Jésus veut enseigner ici. Alors, tu peux peut-être juste remettre le début. Donc, vous l'avez peut-être lu, entendu qu'une fois, mais combien de scènes, si vous aviez à le découper, combien de scènes vous auriez vu là-dedans? Ouais.
4.
4, ouais.
3,
5. 5.
6.
Bon, en tous les cas, on peut redécouper. En réalité, on voit 4, voire 3. Alors, juste, qu'est-ce que vous entendez par le mot talent au début, quand le propriétaire, ça va assez vite, dès le début du récit. Donc, il part, il distribue, selon les capacités, un talent à chacun. Parce qu'en fait, dans la langue française, c'est un mot qui a pris une autre connotation. D'ailleurs, ça vient de là. C'est pas les talents, ce qu'on sait faire. Là, c'était vraiment une quantité d'argent. Une quantité d'argent assez impressionnante, d'ailleurs. Donc, soit 1, soit 3, soit 5. Donc, on peut relire le passage en mettant des lingots d'or ou des pièces d'or à la place de talents, pour pas que ça vous perturbe. Alors, est-ce qu'ils les avaient au départ, ces talents, les ouvriers? Ils ne les avaient pas au départ. D'accord. Non, mais c'est important de le dire. Ils ne les avaient pas au départ. Donc là, on va juste décortiquer, il n'y a rien de... Tout le monde peut le faire. Donc la première scène, on s'imagine, donc le maître, il part. Il confie la fortune. Et ça choque personne. Bon, eux, ça les chauffe pas, mais nous, aujourd'hui, on prendrait pas des garanties?
Pas moi, mais...
Enfin, en tous les cas, lui, il a confiance, hein, ce maître.
Il donne
tout. Il donne pas tout, mais enfin, il en donne une quantité importante, puisqu'on arrive. Enfin, j'ai regardé que ça valait un talent 45 kilos d'argent à l'époque. Donc après, on peut. En tous les cas, il leur fait confiance. Est-ce qu'il donne des instructions?
Non.
Il donne pas d'instructions. Donc on peut supposer que les ouvriers savent ce qu'ils ont à faire. Donc il y a une distribution importante d'argent, probablement des... Enfin, on peut faire un parallèle, est-ce que c'est des dons spirituels qu'ils reçoivent là, hein, des parallèles avec nous aujourd'hui. Donc ils quittent tout le monde sans laisser d'instruction, il y a une grande confiance, et on n'a pas de détails sur le travail à faire. Donc il n'y a plus de ce qui m'appartient, ce qui t'appartient, finalement tout le monde se met au travail pour le maître et dans le bien communautaire. Alors, est-ce qu'ils mettent un certain temps, est-ce qu'ils réfléchissent les ouvriers avant de se mettre en marche? Est-ce qu'ils discutent entre eux de ce qu'ils ont à faire? Bon, on peut penser que Jésus a voulu aussi raccourcir le récit sans trop détailler. En tous les cas, c'est mis hein, aussitôt, donc ça veut dire qu'immédiatement, une fois que le maître est parti, aussitôt, ils se mettent au boulot. Alors, ben, ils y vont, hein, ils se mettent au boulot. Le premier serviteur, donc on nous dit quoi? Ben, il place ses 5 lingots d'or, enfin en tous les cas, il les fait fructifier, et le deuxième en place 2. Il n'y a pas discussion entre eux, sur toi t'en as eu 2, moi j'en ai eu 5, comment ça se fait? Non, chacun se met en marche. Est-ce que le genre de travail qu'il fournit, c'est important? Est-ce que Jésus en parle?
Ben si, c'est chacun selon ses...
Chacun selon... ce qu'il a fait, voilà. Selon ce qu'il a reçu, il se met en marche. Mais Jésus ne précise pas ce qu'il attend, ni en tous les cas, ils ont un dénominateur commun, les deux premiers serviteurs, ils travaillent effectivement, et après il se passe quoi?
Ils en gagnent autant,
donc ils font fructifier l'affaire. Donc le genre de travail, en tous les cas, importe moins pour Jésus que le fait qu'il soit mis en marche, selon leur capacité. Et puis il y a le troisième. Alors lui, on va peut-être un peu s'attarder dessus. Alors le troisième, bon, il a reçu hein, un talent. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que nous dit la parabole? Alors oui et non, il a la flemme. Bah, au début, je me suis effectivement, quand on lit en premier, on se dit que non. Bah oui et non, parce qu'il va quand même creuser un trou.
Ah oui.
Donc il se donne quand même de la peine pour cacher son talent. Est-ce qu'on sait pourquoi il ne se met pas en marche dans le travail? Est-ce qu'au début on nous le dit?
Non.
On ne sait pas ses raisons. Alors au début on peut se dire bah peut-être qu'il a peur du maître. Hein. Peut-être que le maître, on ne sait pas hein, derrière hein, ce qui se passe. Hein. Donc au tout début de la parabole, on ne sait pas. Les raisons ne sont pas dévoilées, alors on peut penser à de la paresse, de la prudence. Il se dit bah, peut-être que je vais mettre ça de côté, on ne sait jamais. Hein. En tous les cas, il fait un effort pour ne pas travailler. Parce qu'il va quand même faire son trou, il va cacher son lingot. Et ce qu'on doit retenir, surtout, c'est surtout qu'il se prive de ce qu'il a reçu. C'est quand même... Enfin, on peut se dire, c'est bête, quoi. Il reçoit un cadeau et puis il plante, quoi. Enfin, il reçoit quelque chose et il ne l'utilise pas. On va voir après des raisons pour lesquelles il fait ça. Donc voilà, on a la deuxième scène. Hein. Ils se sont tous plus ou moins mis au travail selon leur capacité. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Alors ça, pour moi, c'était la troisième scène, mais ah ben, le maître, il ne part pas éternellement. Hein. Il revient. Alors, en lisant, on voit que quand même, il y a un certain temps qui s'écoule. Hein. Il ne revient pas une semaine après. Hein. Il laisse quand même les ouvriers se mettre à la tâche. Donc, il revient bien longtemps après. Est-ce qu'il revient au justicier? Est-ce qu'il revient? Est-ce que quand on lit le texte, on a l'impression qu'il revient pour qu'on lui rende des comptes?
C'est écrit comme ça, mais...
Oui.
Alors, par rapport à ce que j'ai dit au début, par rapport au propriétaire, nous, ça nous fait peut-être tiquer quand on lit ça, il leur fit rendre des comptes, mais c'était l'usage. Hein, le grand propriétaire partait, il revenait. C'est l'usage qui demande des comptes à ses ouvriers, enfin savoir où ils en sont dans leur travail, etc. Donc c'est sûr que pour nous, ça peut interpeller, mais pas tant que ça pour le juif du 1er siècle. C'est normal qu'il rende compte au propriétaire. Hein, c'est logique. Puisque il est, faut s'imaginer qu'il est copropriétaire d'ouvriers. Au moment où le maître part, il travaille avec le propriétaire. Donc, il a autant d'intérêt à faire fructifier que le propriétaire. Donc, c'est normal qu'il rende des comptes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les deux premiers, on va juste s'attarder sur ce que le maître dit. Donc, il leur explique. Donc voilà, il leur demande, alors il dit, j'avais deux talents, voilà deux autres. Donc il les gratifie, les deux. C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et à la fin, il dit, la récompense, c'est
entre
dans la joie de ton maître. Est-ce qu'il lui reprend, il est question qu'il lui reprenne ce qu'il lui a donné au début? Non. Est-ce qu'il est question de vraiment rendre compte en détail du travail? Non. Et la récompense, est-ce que c'est la même pour les deux? Pour les deux ouvriers qui ont travaillé? Alors pareil, on revoit. Donc, lorsqu'il dit « entre dans la joie de ton maître », Jésus fait sûrement référence à l'entrée dans le royaume, hein, puisque c'était une question qui se posait, hein. Les disciples à l'époque. Donc c'est vraiment la récompense, c'est rentrer dans la joie, dans le royaume du maître. Il les gratifie de fidèles, donc ça aussi, c'est un appel à la fidélité du peuple de Dieu. Et donc, on voit que le maître est heureux et fait entrer sur le même plan les deux ouvriers. Alors ils sont co-ouvriers, et ils ont fait fructifier, du coup la récompense est la même. Et puis vient le troisième serviteur. Alors là, la sentence elle tombe. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment il réagit le troisième serviteur au moment où il doit rendre des comptes?
Il met le parapluie.
Alors il met le parapluie, donc déjà il argumente. Il argumente, il justifie son comportement, effectivement. Lui, il a tout sclérosé. Hein. Donc, quoi d'autre? Par rapport au maître, qu'est-ce qu'il lui reproche?
Non, de demander trop.
Le maître en demandait trop, et puis on peut voir... Là, vous avez eu l'impression, vous, est-ce qu'en lisant le début de la parabole et puis la récompense qu'il a donnée aux deux autres ouvriers, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était comme ça, que c'était un homme dur quand on lit?
Non,
c'est étonnant, hein. Et pourtant, il lui dit, lui, hein, c'est un homme dur, et puis il va plus loin. Hein. En gros, il lui dit, toi, t'es qu'un gros fainéant, tu te pointes et puis tu ramasses là où t'as pas semé. Donc il l'accuse.
Il le traite de malhonnête. Ouais.
Il le traite de malhonnête.
Il lui dit, c'est capté avec
lui. Voilà. Comment lui...
Et ça balance.
Alors, comment lui, il a vécu les choses? Donc si on n'avait pas vu avant, nous, comment il a eu le rapport avec les deux autres ouvriers, là, on a... Je dirais deux portraits du maître qui sont différents. Donc il y a un conflit, hein. Soit il y en a un qui est juste et l'autre qui est faux, il y a un truc qui ne va pas, quoi, dans l'histoire. Alors déjà, sûrement que le troisième serviteur, il avait sûrement une mauvaise image du maître. Il le voyait avec des filtres, avec des lunettes qui n'étaient pas la juste réalité de ce maître. Donc, il le voyait dur, il le voyait comme quelqu'un d'injuste. Donc, le voyant comme ça, il a réagi sûrement en fonction de ça. Il n'a pas cherché à connaître la volonté de son maître. Est-ce que vous pensez que si on lui avait donné davantage, il aurait réagi autrement? Oui?
Non, je crois pas.
Je pense pas, en fait. Je pense pas non plus. Probablement pas. C'était pas une question de quantité. Hein. Est-ce qu'il avait la confiance du maître au départ, lui? Ou le maître s'en est méfié?
Je crois que s'en est méfié.
C'est pas dit.
C'est pas dit. Que... Il a quand même donné un talent et selon ses capacités. Oh, voilà, il n'a pas dit selon ses.
Il a pas dit qu'il fallait
doubler.
Il
a personne qui fallait doubler. Il n'a pas dit, mais dans... effectivement, il n'a pas clairement énoncé les consignes, mais c'était. Enfin, on verra plus loin ce qu'il lui reproche en fait. C'est sûrement pas de ne pas avoir doublé, c'est certainement de ne pas avoir. De pas s'être mis en marche en fait. Voilà. C'est le fait qu'il est caché, c'est pas le fait qu'il n'ait pas doublé qui lui reproche le maître.
Je crois.
C'est ça. Donc, en tous les cas, l'ouvrier le voit avec des lunettes faussées et il lui prête des intentions que le maître n'avait pas. En fait, en tous les cas, des intentions que les scènes précédentes ne peuvent pas nous amener à conclure. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il se place sur le plan de la justice, le troisième ouvrier. Il dit, ouais, mais voilà, ça c'est à toi, je te le redonne, donc on est quitte. Hein. Mm-hmm. Donc, d'un point de vue humain, finalement, voilà, hein, je t'ai pas arnaqué, hein, il ne l'a pas volé, le troisième ouvrier. Comme tu dis, il lui a redonné exactement le talent qu'il avait. En sachant que, sous-entendu, il fallait quand même faire fructifier, au fond. Il va plus loin, je trouve, il attaque le maître, sur un plan moral. Il lui dit, t'es un homme dur. Alors, en faisant ça, il essaye, tu l'as dit, de se justifier, de justifier son acte. Il le justifie aussi par la peur. Ben, il dit, ouais, moi j'ai eu peur de toi, donc ben voilà, je préférais ne rien faire que... voilà. Est-ce qu'il se remet en cause à un moment donné, l'ouvrier ? Pas du tout. Hein. Donc le serviteur, le troisième, il affirme avoir accompli son devoir, et puis de l'autre, le propriétaire, soi-disant, qui fait fi de justice. Alors qu'est-ce qu'il dit le maître ? C'est assez, je trouve, surprenant. Dans les paraboles, il y a toujours un moment donné où ça nous interpelle. Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est bizarre, hein ?
Il reprend les mêmes mots que lui.
Ouais. Tout à fait. Il répond au fou selon sa folie, quoi. Et donc, il y a un parallèle dans Luc, dans une autre parabole. En fait, il se place sur le même plan du troisième ouvrier. Il lui dit, toi, tu me trouves comme ça ? Ah ben, ouais, alors je suis comme ça, je suis méchant, je moissonne où je n'ai pas semé, mais alors pourquoi au minimum tu n'as pas mis mon argent à fructifier comme intérêt ? Il se met sur le même plan que l'ouvrier. Donc il lui dit, si au moins, dans ce cas-là, si j'avais été comme tu le dis, ben, au moins tu aurais pu mettre mon argent de côté. Il ne le contredit pas, hein, il le prend plutôt à contre-pied. Il montre au serviteur sa mauvaise foi, en lui disant au minimum tu aurais pu faire fructifier mon argent. Et le fait qu'il ait la réponse qu'il a donnée aux deux premiers serviteurs montre que c'est pas un homme dur. Donc nous, en tant que lecteurs et en tant qu'auditeurs juifs du premier siècle, ils savent que le maître n'est pas dur. Et donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est plus son côté, plus que ça paraît sous le fait qu'il n'est pas doublé, c'est le fait qu'il est enfui et pas fait fructifier, enfin en tous les cas pas donné un minimum d'intérêt au don ou au talent qu'il a reçu ou à l'argent qu'il a reçu. Son manque d'initiative et peut-être par rapport au début son manque de fidélité, puisqu'il était ouvrier dans l'exploitation, il aurait dû au minimum se comporter en co-ouvrier de la propriété dont il était employé certainement là, dans l'histoire. Donc il a laissé improductif et stérile l'argent donné, alors si on peut aller plus loin, peut-être la parole de Dieu donnée ou les talents donnés. Donc la sentence tombe et c'est assez brusque. Alors c'est après, voilà. Donc la sentence tombe, on ôte le talent, on ôte l'argent à celui qui a été infidèle et on le donne à celui qui avait les 10 talents. Donc là, ce renversement de façon de faire, d'idée, on le retrouve dans d'autres paraboles et Jésus il fait qu'énoncer là une vérité spirituelle, hein, que la parole grandit. Quand on la fait fructifier, elle diminue lorsqu'on la cache et qu'on ne rend pas grâce de tous les dons que Dieu donne. Donc c'est pas choquant pour l'auditeur du premier siècle d'entendre ça. Donc il sous-entend, puisque la grande question, c'était quand même la question du royaume, hein, pour les gens qui l'écoutaient et qui l'interpellaient, la grande question, c'est savoir l'entrée du royaume, comment elle se fait. Et là, il sous-entend certainement Jésus que on peut pas bluffer, quoi. Entrée du royaume, tu peux pas bluffer Dieu. On a plus vu un petit peu d'un point de vue concret. Et alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait en retirer de cette parabole? Qu'est-ce qui vous... Concrètement, je veux dire, dans notre quotidien 2014, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur Dieu, sur le royaume, ce que Dieu donne au quotidien? Est-ce qu'elle nous apprend des choses d'abord? Ou est-ce qu'elle est juste destinée à ses auditeurs du 1er siècle?
Non, moi, ce que j'y pensais là, j'entendais, il a donné à chacun selon ses capacités. Ouais. Et ce qui veut dire qu'on a tous des capacités plus ou moins grandes.
Ouais.
Il y a des gens qui ont d'énormes capacités, d'autres moins. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment même si on a de très petites capacités, c'est de les mettre en œuvre pour le royaume.
Ouais.
Et là, je crois qu'il y a malheureusement trop de gens qui disent « moi je ne peux pas, c'est pas pour moi », ou « non, moi je n'ai rien ». Donc, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, Pascal, ils viennent chauffer les bancs et puis c'est tout. Alors que le Seigneur leur a donné des capacités pour faire autre chose que chauffer le banc.
Voilà, c'est vrai, cette parabole, elle nous enseigne... C'est clairement un appel à la fidélité. Hein. Ça, c'est sûr, on a eu juste avant la parabole des 10 vierges qui est un appel à la vigilance. Là, on a un appel à la fidélité. Donc là, on apprend que Dieu donne chacun selon ses capacités. Donc il faut lui faire confiance. Hein, il sait.
Confiance aussi.
Un appel à la confiance. Oui. Tout le monde peut entrer dans ce projet-là. Est-ce qu'il y a eu un ouvrier qui a été en échec dans la parabole? Est-ce qu'il y en a qui n'a pas réussi? Qui n'a pas voulu entrer, mais quelque part, moi ce qui m'a marqué, c'est que il n'y aurait pas un serviteur qui aurait essayé puis qui échoue, quoi. Voilà. Et ça m'a... Enfin, je trouve que ça m'a encouragé.
C'est perdre l'argent, c'est ça? Et jouer,
voilà, par exemple, dans le cas là, on n'a pas de serviteur qui perd. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça chouette, quoi, parce que ceux qui ont voulu se mettre en marche, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Donc, dans le royaume de Dieu, j'allais dire, il n'y a pas d'échec possible sur le plan de Dieu. Hein, aux yeux de Dieu, tu ne peux pas échouer si tu te mets en marche, quelles que soient tes capacités.
C'est la raison pour laquelle
pour pas voir, puis quelque part on a une forme de mépris. La récompense est en fonction de ce que tu as fait?
Non, puisque...
Alors ça c'est chouette aussi, moi je trouve. Et ouais, là on a la même récompense en fait, et dans le monde aujourd'hui, enfin je veux dire, c'est à nouveau selon les yeux de... Enfin avec les yeux de Dieu, Dieu il va donner la même récompense à chacun parce que chacun aura fait avancer son royaume selon ses talents. Et c'est pas une question de voilà de toi t'es capable mieux ou je te gratifie de plus. Visiblement dans cette parabole, en tous les cas, c'est pas ça qui est dit, quoi. Donc il n'y a pas d'échec. Alors on l'a pas dit, mais plus ou moins, je pense que le don de Dieu, la grâce, elle justifie pas la négligence des dons qu'on reçoit. La générosité de Dieu ne doit pas nous faire négliger, l'amour de Dieu envers nous ne doit pas nous faire négliger ce qu'il nous donne, en disant c'est bon, Dieu il m'aime, on est tranquille. Donc il y a une responsabilité aussi qui est engagée, c'est ce que Jésus veut dire aussi aux disciples, une responsabilité, est-ce que je suis responsable de l'ouvrier à côté de moi? Quelque part oui, mais pas en tous les cas de ses dons à lui, quoi. Chacun est responsable de...
Pas de ses choix. Je
ne pouvais pas couvrir le manque de fidélité de l'autre en lui donnant un talent, quoi. Voilà, c'est chacun est responsable devant Dieu.
Ils n'ont pas eu l'idée de mettre tout en commun, de travailler ensemble.
Ah non, il y a... Non, parce que je pense que derrière, Jésus veut quand même enseigner les disciples et le peuple sur le salut, le royaume de Dieu et le salut qui est une réponse individuelle, un appel de Dieu à toi, et une réponse de toi à Dieu. Et donc ce côté collectif, on l'a pas, mais on l'a quand même, dans le sens où chacun fait avancer la propriété, fait grandir, quoi.
Ouais. Participe au même projet.
Quoi. Voilà, ouais. Mais c'est de toute façon, enfin moi, en ayant étudié les paraboles pendant les études, on peut pas négliger que des fois, enfin Jésus, il est quand même assez aussi, tout en étant doux dans la façon dont il parle, il dit les choses clairement, quoi. Donc la responsabilité individuelle, elle est quand même rappelée clairement dans la parabole, quoi. Qu'on peut pas, voilà. On est quand même face à un Dieu saint et qui nous aime et qui nous appelle à être fidèles et à nous engager et à, personnellement. On ne peut pas le faire à la place des autres. Voilà. J'ai bien aimé le petit dessin là parce que il a l'air un peu paumé celui qui en a un cœur là. Je me demande qui en fait. Ouais. Mais voilà. Voilà, je pense qu'on a. Enfin, moi, que vous ayez encore des. Voilà, j'avais repris, mais on a dit d'autres choses. Hein, mais c'était mes conclusions. Ouais. Donc, moi, je trouve ça chouette parce qu'on parle de rentrée, on parle d'examen, on parle de d'enjeux. Et enfin, s'il y a bien un endroit où il n'y a pas d'échec, c'est celui d'accepter d'entrer. Dans ce projet magnifique de cette aventure du royaume de Dieu et de vivre avec Dieu à ses côtés, il n'y a pas d'échec et ça. Hein. Moi, je pense à nos jeunes qui sont tellement stressés et malmenés parfois par la réussite scolaire. Et on est partenaire de l'Alliance, ça aussi, je trouve ça chouette. Hein. On n'est pas des simples marionnettes. Dieu, il nous veut co-héritiers. Du royaume. Voilà, donc l'appel à la fidélité, je trouvais que c'était, enfin, peut-être pour cette rentrée scolaire 2015-2016, peut-être le garder en tête. Voilà, vous avez bien travaillé, c'est bien.
Merci à toi, tu as bien bossé.